Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Syndicats, patronat et chef de l'État qui dialoguaient ce matin sur le dialogue social. Les discussions se sont prolongées et viennent de se terminer au Palais de l'Élysée. Pour quels résultats ? Nous poserons la question à Catherine Pétillon en début de journal. Quel cap pour les réductions des dépenses publiques d'ici à la fin du quinquennat ? Le comité Cap 22 a rendu à Matignon ses propositions de coup de rabot dans nos administrations. Le Figaro en dévoile les grandes lignes que nous analyserons avec Stéphane Robert. Une semaine après avoir perdu son immunité parlementaire, le député Marcheur, ex-LR Thierry Solaire est en garde à vue au parquet de Nanterre qui enquête sur des soupçons entre autres de corruption et de fraude fiscale, un dossier suivi par Antoine Marette. L'Europe trop dépendante des gazoducs russes et de l'instabilité en Ukraine. Une réunion se déroule justement à Berlin aujourd'hui avec Européens, Russes et Ukrainiens. Nous nous pencherons sur les enjeux de ce sommet avec Marie Viennot. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur ce grand projet d'un Airbus ferroviaire avec la fusion annoncée entre le français Alstom et l'allemand Siemens. Rêve contrarié, nous le verrons par une enquête européenne, c'est ce que nous dira en tout cas Pascal Thibault. À 12h45, la grande table d'été, ce sera avec Maëlys Bessery et ce sera, comme toute cette semaine, en direct du Festival d'Avignon où les questions de genre sont très présentes cette année. C'est ce que nous verrons dans la première partie de l'émission avant de dresser le portrait de la comédienne Amira Kazar. Le dialogue social est-il renoué entre le chef de l'État et les partenaires sociaux ? En tout cas, les représentants des 8 organisations syndicales et patronales viennent de passer un peu plus de 3 heures autour d'une même table au Palais de l'Élysée. Ils y étaient réunis pour la première fois du quinquennat à l'invitation d'Emmanuel Macron qui, depuis son arrivée au pouvoir, il faut bien le dire, a beaucoup mis en scène la concertation avec les partenaires sociaux sur ces grandes réformes, mais n'a pas toujours semblé à l'écoute de leur point de vue. Beaucoup d'attentes donc autour de cette réunion de ce matin. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
Vous êtes en direct justement de l'Élysée. Alors que nous disent syndicalistes et représentants du patronat à l'issue de ce qu'on présente comme un dialogue renoué ?
Alors que la discussion a été nourrie, cette réunion a été longue et dense de l'avis des organisations qui sortent en ce moment même et rendent compte des échanges qu'ils ont eus avec le président de la République qui les recevait avec son secrétaire général et son conseiller social. Ils ont d'abord parlé méthode. Le président a visiblement reconnu qu'il était allé à son rythme dans ce début de quinquennat. Réponse aux reproches qui lui sont régulièrement faits d'avoir contourné les partenaires sociaux. Il en a convenu, mais reste à voir s'il changera, a souligné en sortant Philippe Martinez de la CGT qui reste donc attentif quand François Asselin de la CFE-CGC a lui salué un changement de méthode de la part du président. Dialogue renoué donc. Les discussions ont aussi porté sur le fond. Le président a évoqué son agenda, les sujets qu'il souhaite voir discuter à la rentrée, en particulier la santé au travail et l'assurance chômage dont il veut une révision des règles. Chaque organisation a aussi de son côté pu mettre sur la table ses propres sujets. Pour la CGT, la répartition de la richesse, la souffrance au travail, les services publics. Monsieur Roux de Bézieux, nouveau président du MEDEF, il a évoqué les difficultés de recrutement, les mutations technologiques ou encore l'Europe. Pour discuter de tous ces sujets, les organisations ont convenu de rencontres bilatérales avec le Premier ministre et aussi d'une réunion de l'ensemble des organisations sur l'assurance chômage. Le dialogue, en tout cas, semble bien renoué.
Merci beaucoup Catherine Pétillon au Palais de l'Élysée grâce aux moyens techniques de Sandrine Malon. C'est le rapport que toute la fonction publique redoutait depuis plusieurs mois. Le Figaro a eu accès aux recommandations du comité Action publique dit Cap 22, un nouveau coup de rabot annoncé dans les administrations et les dépenses publiques à l'horizon donc 2022. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour.
Le chiffre avancé par Le Figaro, c'est 30 milliards d'euros d'économies dans la sphère publique d'ici à la fin donc du quinquennat. Reste à savoir quelle piste préconise le comité Cap 22 pour y arriver.
Oui, ce rapport proposerait une vingtaine de mesures pour réaliser effectivement une trentaine de milliards d'euros d'économies. On trouve notamment la suppression des taux réduits de TVA dans le bâtiment et la restauration, suppression d'un certain nombre d'aides, comme les aides à l'innovation ou encore les aides à la transition énergétique. Tout ça pourrait faire gagner, dit ce rapport, plus de 5 milliards d'euros. Il pointe également une nécessaire refonte du système de soins pour désengorger l'hôpital avec à la clé 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Une mise en concurrence des services d'aide au retour à l'emploi accompagnée d'un recadrage du rôle de Pôle emploi. Il préconise aussi de supprimer les doublons entre l'État et les collectivités territoriales, de simplifier le mode de recouvrement des impôts en réduisant le nombre de structures qui en ont la charge. Et puis il évoque un assouplissement du statut de fonctionnaire pour notamment offrir des possibilités d'évolution différenciée entre les différentes fonctions publiques. Globalement, la philosophie de ce rapport est qu'il faudrait supprimer tout ce qui n'est pas efficace. Rappelons quand même que les 44 experts sollicités pour le rédiger ont rendu leur copie en avril dernier, qu'il devait être publié dans la foulée, au printemps, puis finalement que sa publication a sans cesse été repoussée. La semaine dernière, le gouvernement annonçait qu'il serait dévoilé au mois d'octobre, après que chaque ministère ait présenté les économies qu'il entend réaliser. Et puis finalement, il paraît, là, au cœur de l'été, avec cette précision que le gouvernement l'aurait d'ores et déjà enterré. Ce n'est vraisemblablement pas le cas. Ce rapport est en fait une patate chaude que l'exécutif fait opportunément fuiter au cœur de l'été sans avoir l'air d'y toucher, sans doute pour tester ses potentiels effets délétères à un moment où l'opinion publique est la moins sensible et la moins réceptive à cause des vacances.
Stéphane Robert, merci beaucoup. Les ennuis judiciaires à présent qui s'intensifient autour de Thierry Solaire, le député ex-LR passé à La République En Marche, avait déjà vu son immunité parlementaire levée la semaine dernière sur demande du parquet de Nanterre dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale, trafic d'influence, corruption et toute une série d'autres chefs qui lui valent depuis ce matin un placement en garde à vue, Antoine Marette.
Oui, c'est en 2016 que les ennuis judiciaires commencent pour Thierry Solaire. Il est alors député LR et il préside le comité d'organisation de la primaire de la droite pour la présidentielle. L'administration fiscale porte plainte contre lui pour fraude fiscale. Le parquet de Nanterre ouvre une enquête en septembre. Thierry Solaire clame son innocence et il affirme être la victime d'un cabinet noir de l'Élysée. Mais le départ de François Hollande de la présidence de la République ne marque pas la fin des problèmes pour l'élu, bien au contraire. L'enquête est élargie aux chefs de trafic d'influence, corruption, abus de biens sociaux, financement illicite de dépenses électorales et manquement aux obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et cette affaire éclabousse également l'ancien garde des Sceaux socialiste Jean-Jacques Urvoas, qui est mis en examen par la Cour de justice de la République pour violation du secret professionnel. Il aurait transmis à Thierry Solaire des éléments sur l'enquête le concernant. La garde à vue de Thierry Solaire va lui permettre de s'expliquer sur plusieurs soupçons. Il se serait notamment servi de sa position d'élu pour favoriser des entreprises pour lesquelles il travaillait par ailleurs. Il aurait employé en tant qu'assistante parlementaire l'épouse de l'un de ses anciens employeurs, un emploi que la justice pense fictif. Thierry Solaire devrait aussi être interrogé sur des prêts octroyés par l'un de ses proches, promoteur immobilier pour plus d'1 million d'euros, des sommes qui n'auraient pas été déclarées. Celui qui est toujours député LREM conteste pour l'instant l'ensemble de ses soupçons.
Et ça fait beaucoup pour un seul homme. Merci beaucoup Antoine Marette. Un peu plus de 6 mois après le scandale Lactalis, ces tonnes de lait infantile qui avaient été produites dans une usine contaminée au salmonelle et vendues à travers le monde. 6 mois plus tard, donc, le Conseil national de la consommation français veut montrer qu'il tire les leçons de cette affaire Lactalis. Il dévoilait tout à l'heure 30 mesures pour mieux gérer les procédures de retrait de la vente et de rappel des produits suspects. On se souvient que Lactalis, en l'occurrence, avait tardé à rappeler toutes les boîtes de lait malgré les alertes sanitaires. Alors pour agir plus vite et mieux, Bercy envisage notamment d'utiliser les données bancaires des consommateurs pour retrouver ces derniers et leur faire rendre les produits suspects. Le big data au service d'une bonne cause, voilà qui pose encore pas mal de questions, reconnaît Émilie Tafournel. Elle est la directrice qualité de la Fédération du Commerce.
Aujourd'hui, le distributeur n'a pas la main sur les données cartes bancaires. Ça fait partie de la loi. On n'a pas le droit en tant que distributeur ou n'importe quel commerçant d'avoir le numéro complet de la carte bancaire. Par contre, on a la possibilité, nous, d'éditer ce qu'on appelle un journal des ventes qui nous permet, en tapant la référence, le code barre du produit, de savoir à qui il a été vendu. Et donc, on fournit cette édition de journal des ventes aux banques qui, elles, vont décrypter la partie bancante de la carte bancaire que nous ne détenons pas pour pouvoir nous dire c'est tel consommateur qui a acheté le produit et que vous devez pouvoir contacter. La difficulté, c'est la sensibilité relative aux données bancaires. Il est extrêmement important que nous arrivions à trouver avec le secteur bancaire 2 engagements. Le premier étant de détruire les données qui nous auront été fournies juste après le contact du consommateur. Donc dès que la procédure a été engagée, nous devons fournir un engagement de la part du secteur bancaire à détruire ces données, puisque c'est ce qu'on appelle le secret bancaire. Et le deuxième engagement, c'est une procédure qui permet au consommateur de dire « oui, ou non je suis d'accord avec le fait d'être contacté sur mon numéro de téléphone en cas de crise grave sur la base de mes données bancaires. Il nous faut un accord pour cela des consommateurs et nous avons déjà commencé à travailler avec le secteur bancaire sur ces procédures.
Émilie Tafournel de la Fédération du Commerce qui répondait aux questions d'Hélène Fromanti pour France Culture. Cette proposition d'utiliser les données bancaires donc des consommateurs, elle va encore faire bien sûr l'objet d'une concertation avec la CNIL et elle devra être conforme au règlement européen sur la protection des données. Midi 40 sur France Culture. Voilà un message puissant envoyé contre le protectionnisme de Donald Trump. C'est le sens en tout cas donné par l'Union européenne et le Japon à cet accord de libre-échange baptisé JEFTA et qui vient d'être signé à Tokyo par Jean-Claude Juncker et par le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Un accord commercial extrêmement ambitieux, c'est en tout cas ce que disent ces deux signataires, à rebours donc des barrières douanières érigées par le président américain. Et c'est là une dépendance qui ne cesse de s'aggraver depuis des années. L'Europe accro au gaz russe et à la société Gazprom, le bras gazier du Kremlin qui lui fournit 35% de sa consommation. On se souvient que la semaine dernière, Donald Trump avait critiqué cette dépendance énergétique et non sans conséquence géopolitique qu'exerce Moscou sur l'Allemagne en particulier. Et c'est justement à Berlin que se déroule aujourd'hui une réunion sur ces questions gazières, réunion sous l'égide de l'Union européenne qui réunit les Russes mais aussi les Ukrainiens, un pays de transit pour leur incontournable. Bonjour Marie.
Bonjour.
Quel est l'objectif en fait de cette réunion au sommet sur le gaz ?
Cette réunion a lieu chaque année pour mettre en place les conditions de livraison du gaz russe à l'Europe pour l'hiver qui suit. En vérité, personne n'a intérêt à ce que cela se passe mal. Les Ukrainiens, parce qu'ils touchent un droit de passage du gaz russe sous leur sol et que cela leur rapporte plusieurs milliards d'euros par an. Les Russes, parce qu'ils ont besoin de vendre leur gaz aux Européens en passant par l'Ukraine. Et les Européens, parce qu'ils sont, vous l'avez dit, de plus en plus dépendants du gaz russe du fait de la réduction drastique de la production gazière des Pays-Bas. Ces intérêts croisés expliquent pourquoi ces échanges de gaz n'ont jamais été interrompus malgré les sanctions économiques européennes vis-à-vis de la Russie et malgré le conflit entre Kiev et Moscou. Le problème, cette fois, c'est que le contrat qui lie la compagnie russe Gazprom à la compagnie ukrainienne Naftogaz expire fin 2019, qu'il faut le renégocier alors que les deux entreprises sont en conflit judiciaire. Récemment, une cour d'arbitrage a donné tort à Gazprom et lui a demandé de rembourser 2,5 milliards d'euros, ce que Gazprom ne veut pas faire. En outre, la Russie continue d'avancer sur son projet de gazoduc qui permettrait de livrer du gaz aux Européens sans passer par l'Ukraine. Ce projet s'appelle Nord Stream 2. Il inquiète l'Ukraine et les pays de l'Est de l'Europe qui craignent qu'une fois libérée de sa dépendance à l'Ukraine, la Russie n'attaque carrément le pays. Les Américains s'en inquiètent aussi et ils ont récemment menacé de sanctionner les entreprises qui participent à ce projet Nord Stream. Gazprom bien sûr, mais aussi Engie, Shell et deux compagnies allemandes et autrichiennes. Les présidents russes et américains ont d'ailleurs parlé de ce sujet du gaz hier. Vladimir Poutine a assuré que le transit via l'Ukraine se poursuivrait malgré ce nouveau gazoduc, mais à certaines conditions. Lesquelles ? Eh bien, il en sera sans doute question lors de la réunion d'aujourd'hui.
Marie Viennot, merci. La Russie doublement pointée du doigt par la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui rendait ce matin deux avis sur la répression des dissidences au pays de Vladimir Poutine. La justice russe est condamnée pour ses manquements dans l'enquête sur l'assassinat de la journaliste d'opposition Anna Politkovskaya en octobre 2006. Et puis la Russie également condamnée pour de multiples violations des droits fondamentaux. Ça, c'est à l'encontre des Pussy Riot. On se souvient que quatre membres de ce groupe contestataire et féministe ont écopé hier soir de 15 jours de prison pour s'être introduits sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou en pleine finale de la Coupe du Monde. L'Europe veut mettre sur les rails un géant mondial du transport ferroviaire et cela passe par une fusion entre fabricants de trains des deux côtés du Rhin. Les actionnaires du français Alstom sont réunis ce mardi pour approuver le rapprochement avec l'allemand Siemens. Il avait été annoncé ce rapprochement à l'automne dernier mais il est retardé depuis que la Commission européenne a commencé à y mettre son nez. Explication depuis Berlin avec Pascal Thibault.
Il y a un peu plus d'un mois, les deux groupes ont annoncé que la fusion prévue pour être effective d'ici la fin de l'année devra patienter jusqu'au premier semestre 2019. La Commission européenne a en effet annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête approfondie craignant que le rapprochement des deux groupes français et allemand ne réduise la concurrence sur le marché et a des conséquences négatives sur les prix pour les consommateurs. La nouvelle entreprise serait trois fois plus importante que son principal concurrent. Alstom et Siemens, qui avaient jusqu'au 6 juillet pour présenter des concessions à la Commission européenne, comme des cessions d'actifs, ne l'ont pas fait. Ils veulent visiblement attendre que Bruxelles précise concrètement ses critiques pour adapter les réponses. Dans un courriel aux salariés, un responsable de Siemens affirme ne pas avoir été surpris par la décision de la Commission européenne et reste optimiste. Les préparatifs pour la fusion des deux groupes doivent se poursuivre, indépendamment de l'enquête de Bruxelles.
Pascal Thibault à Berlin, la météo en voie d'accalmie avec cet après-midi le ciel qui reste voilé mais globalement lumineux sur une grande partie nord-ouest et centre du pays. Grand soleil au sud et averses orageuses sur l'Alsace et la Lorraine avec un thermomètre qui affiche 22 degrés autour de la Manche jusqu'à 34 sur le Languedoc. Merci à Emmanuel Faucillon qui réalisait ce journal, à Alexandre Dang à la console. Vous retrouverez Stanislas Vazak pour l'info à 18h.